Multicampus.
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 L'interville des radios campus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
Bonjour à tous et à toutes, il est 16h et c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire Multicampus tous les vendredis. Je vous le rappelle, c'est une émission qui réunit les radios campus de France et aujourd'hui, nous accueillons Julien de Tours 99.5 FM, Emma de Lille 106.6 FM, Clémence, Léo et Sarah d'Angers 103 FM, Myriam de Grenoble 90.8 FM, Simon de Campus FM Toulouse 94 FM et Emma de Pulsar Poitiers 95.9 FM et Mathis, moi-même, et Alizéa d'Orléans 88.3 FM, donc de Radio Campus. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, le tour des campus, où chaque radio présentera une actualité marquante liée à sa ville ou à son campus. S'en suivra le millefeuille. Pour rappel, c'est un triptyque de reportages réalisés sur une même thématique par trois radios différentes. Et au programme aujourd'hui, on parlera de questions de genre et transidentité avec Radio Campus Angers et Radio Campus Orléans. S'en suivra déo et débat, ce sera la suite de ce programme dans lequel nous parlerons de la santé psychologique dans un contexte de pandémie des étudiants et le débat sera structuré par Emma de Lille. Pour finir, nous irons du côté de la Hongrie dans le programme Libre International pour parler du veto de la Hongrie sur le vote du budget européen et c'est Angers et Toulouse qui nous feront le plaisir d'animer cette rubrique. Évidemment, il n'y a pas de radio sans musique et vous ne serez pas déçus car Tours nous présentera sa pépite locale et Grenoble, son artiste engagé. Radio Campus France nous fera aussi découvrir son artiste partenaire de la semaine. Tout de suite, Épatois, c'est l'intitulé de cette brève dans laquelle nous allons découvrir un terme du jargon lorrain et qui va la faire cette brève et pas moi, c'est Tom de Radio Campus Lorraine qu'on écoute tout de suite.
De l'ineffable propension qu'ont les Lorrains à oublier le prénom de leur interlocuteur. Exemple.
Comment que c'est, gros?
Et ouais, comment que c'est les gros? Loin de moi l'idée de vous attribuer un qualificatif, mais bienvenue en Lorraine, ma terre natale où on a du mal à s'appeler par nos prénoms. La tendance est forte à mettre un « la » ou un « le » devant le prénom de son interlocuteur. Le Julien, la Roxane, la Clémence, le Mathis, la Alizéa. Bien que ce phénomène se retrouve dans la Lorraine profonde, le monde étudiant n'est pas en reste. Voici un exemple d'un micro-trottoir réalisé au cœur d'une soirée d'intégration lorraine.
Comment tu dis en lorrain? Comment ça va?
Comment que c'est?
Comment que c'est, gros?
Comment que c'est, gros?
Comment que c'est?
Comment que c'est, gros?
Ça guette.
Effectivement, vous l'aurez compris, en Lorraine, ça guette small, ça veut dire comment ça va. Pour dernière illustration, voici un extrait d'une chanson des Amis de ta femme, remettant au goût du jour le célèbre Laisse-béton de Renaud en version lorraine. Laisse tomber, gros.
J'étais tranquille, j'étais peinard, je m'amusais à planter mon chloss. La faute s'est entrée dans le bar avec son survêt de super classe. Puis il m'a tapé dans la panse et m'a regardé d'un air dense. Quand c'est gros, ça guette small, small.
Bon, je vous laisse, bonne émission, en espérant que ça guette small.
Vous écoutez Multicampus, il est maintenant l'heure du tour des campus où chaque radio présente, sous la forme de brève, une actualité marquante liée à sa ville, sa région ou encore son campus. Alors aujourd'hui, pour Radio Pulsar à Poitiers, j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui touche la Vienne plus globalement. C'est la contestation qui est toujours aussi forte contre les bassines. Alors qu'est-ce que c'est une bassine? Eh bien, c'est une réserve d'eau géante qui ne se remplit pas grâce à l'eau de pluie, comme certains le croient, mais par pompage en hiver dans les nappes souterraines. Donc ces bassines, elles servent notamment à irriguer des cultures souvent intensives, donc leur utilisation est controversée. Donc justement dans la Vienne, 43 bassines sont actuellement en projet et ce mercredi, une permanence du commissaire chargé de l'enquête publique sur ce projet a eu lieu dans une des communes concernées. Le commissaire a reçu tour à tour une vingtaine de personnes, dans le respect des gestes barrières évidemment. Et donc plusieurs associations de défense de l'environnement étaient présentes, comme le collectif Bassine Non Merci 86 ou encore l'association Point de Vue Citoyen. Alors ces associations, elles dénoncent le fonctionnement des bassines qui pomperaient l'eau des nappes phréatiques, comme je l'ai dit, alors que celles-ci sont en train de se recharger. Les détracteurs des bassines dénoncent aussi le coût, selon eux, exorbitant de ce projet qui est financé à 70% par l'argent public, alors qu'il ne bénéficierait selon eux, presque pas aux agriculteurs de la région. Le débat est lancé depuis un moment maintenant et il est toujours temps pour les habitants des communes concernées de participer à l'enquête publique dont je vous ai parlé, qui s'achève vendredi prochain. Et toi Mathis, quoi de neuf dans ta ville ?
Eh bien, l'actu du campus d'Orléans, c'est un appel à témoins d'un projet étudiant intitulé « Raconte-moi ton ailleurs ». C'est un projet d'étudiants en Master 2. Leur objectif, donner la parole aux étudiants étrangers du campus d'Orléans afin de constituer une galerie digitale comportant vos portraits et témoignages. Ils recherchent des étudiants ou étudiantes étrangères majeures de tout pays confondu, prêts ou prêtes à témoigner et éventuellement être prises en photo. L'actu orléanaise, c'est un bon point pour les commerçants, les artisans et les TPE locales. C'est l'aide d'1 million d'euros que la ville d'Orléans veut attribuer à ces entités qui a été débloquée. Cette enveloppe servira à aider les commerçants, artisans, TPE, entreprises d'insertion, sites touristiques privés orléanais, ayant perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires lors du confinement. Cela leur permettra peut-être de se rhabiller, car je rappelle que les commerçants orléanais considérés comme non essentiels par le gouvernement ont décidé de s'unir tous sous le slogan « Quitte à être mis à poil par le gouvernement, je préfère le faire moi-même ». Une pensée pour eux et pour leurs miches qui se les gèlent. Et chez les Tourangers, quoi de neuf ?
Écoute, du côté de Tours, eh bien, on va parler donc des masques chirurgicaux qui sont maintenant recyclés dans la métropole de Tours. Car la métropole de Tours commence donc à collecter ces fameux masques pour les recycler, que ça soit dans l'isolation thermique, dans le bitume ou encore dans l'automobile. C'est une première en France qui est poussée par la société Neutralis de Tours. Cette initiative est née, c'est car on trouve de plus en plus de masques chirurgicaux un peu partout sur le sol dans notre ville. La métropole de Tours prend donc ce fléau à bras le corps. Elle a commencé hier à collecter ces masques abandonnés dans l'espace public pour les recycler. Si cette collecte se fait, c'est à l'aide de tubes en plastique transparent installés dans les 22 communes de l'agglomération avec 200 collecteurs dans un premier temps. On prévoit une centaine de points de collecte, précise Martin Cohen, vice-président aux déchets chez nos confrères de la Nouvelle République. Encore faut-il que leurs usages fassent preuve de civisme et l'effort de mettre leurs masques usagés dans ces tubes. Notre priorité, ce sont les écoles, les mairies, et cela peut bien fonctionner dans les petites communes et les centres de soins, ajoute l'élu. Le traitement de ces masques s'opérera en toute sécurité sanitaire, d'où l'importance encore des collecteurs transparents. Ensuite, les masques dits chirurgicaux seront recyclés car ils renferment des fibres plastiques. Ils seront donc transformés en produits d'isolation thermique pour le bâtiment, pour les travaux publics, dans le bitume, dans le béton. Les masques tissus, eux, seront destinés à la filière textile. On trouvera également nos masques usagés dans l'équipement automobile, que ce soit les clignotants, les tableaux de bord, les pare-chocs, etc. Le gisement masque à recycler serait de 60 à 85 tonnes par mois sur le territoire métropolitain, qui va donc s'inscrire dans la durée, car le masque va rentrer apparemment, selon eux, dans les mœurs. C'est tout de suite, on va partir de l'autre côté, mais pas si loin de ça, de chez nous, car on va partir à Angers, quoi de neuf dans ton campus.
Viendra quoi ? Une histoire en trois actes. Emmanuel Macron devait arriver sur Angers ce jeudi 19 novembre. Au programme, rencontre avec une trentaine de commerçants, voire quelques indications sur la possible réouverture, peut-être glissée pendant la réunion. Dimanche 15 novembre, la préfecture reçoit un coup de fil de l'Élysée. Le président devait arriver jeudi. Réunion de briefing en urgence, il faut mobiliser toute une équipe pour le déplacement. Le préfet René Bidal reçoit les différents acteurs, dont Éric Grelier, président de la CCI. Ce dernier contacte les commerçants qui, dit-il, n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Ouest France part d'un panel se voulant représentatif, coiffeurs, vêtements, chaussures, sport ou encore restaurateurs. Mardi soir, c'est la débandade. La visite présidentielle est annulée, sûrement parce qu'il va prendre la parole la semaine prochaine, selon le président de la CCI. Un air de déjà-vu pour Éric Grelier. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, leur a fait le même coup il y a 3 semaines. Et toi, Myriam, quoi de neuf à Grenoble ?
À Grenoble, la métropole va lancer des ateliers de sobriété énergétique. Alors, la sobriété énergétique, qu'est-ce que c'est ? C'est chercher, en fait, à diminuer la consommation d'énergie dans les logements. C'est une question qui est d'autant plus d'actualité qu'on annonce que le mois de février devrait être difficile pour approvisionner l'ensemble des foyers français. Donc, en décembre 2020 et en janvier 2021, Grenoble-Alpes Métropole va faire une série d'ateliers en distanciel pour recueillir les avis et les idées des citoyens et aller vers une réduction de la consommation énergétique et une baisse des émissions de gaz à effet de serre. La mobilité, le chauffage, l'alimentation, le tourisme, l'achat de biens et la consommation de biens de consommation courante entraînent une conséquence directe en matière d'émissions de gaz à effet de serre et d'impact sur l'environnement, explique la métropole. Donc réfléchir à plus de sobriété, c'est réinterroger l'ensemble de nos modes de vie pour faire baisser nos consommations. Les ateliers sont prévus afin d'envisager des façons de faire évoluer les comportements et de mettre en place des actions pour faciliter les changements. Ça concernera 20 à 40 personnes qui seront sélectionnées pour un panel représentatif d'habitants. Et les inscriptions sont ouvertes à partir du 30 novembre. Et à Toulouse,
Bien, à Toulouse, l'Orchestre national du Capitole, qui joue notamment à l'Opéra, d'habitude, a décidé de maintenir une programmation pendant le confinement et propose des représentations en live le samedi. Elles sont visibles en direct sur Facebook et rediffusées sur YouTube. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir les grands classiques du répertoire français, de Ravel, Barjavel, Saint-Saëns. Pour Fabien Gabel, le chef d'orchestre, le plus important, c'est de continuer de faire de la musique et de se battre absolument pour qu'on ne s'arrête pas et qu'on ne s'arrête jamais. Et l'Orchestre du Capitole ne s'arrêtera pas. Belle initiative dans le monde de la culture qui souffre particulièrement en ce moment et un bon moyen de faire entrer dans une salle de concert, même virtuelle, ceux qui ne connaissent pas bien la musique classique ou qui n'y ont pas facilement accès. Voilà pour Toulouse, on va partir de l'autre côté de la France maintenant avec Léna. Que se passe-t-il à Lille ?
Alors, à Lille, et plus particulièrement la semaine prochaine, donc le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et habituellement, le mois de novembre, c'est toujours synonyme de lutte et d'action qui se multiplient d'année en année afin d'interpeller et limiter les violences à Lille. En effet, rappelons-nous qu'en France, en 2019, plus de 150 femmes avaient succombé sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Complétez également cela par le fait que la région des Hauts-de-France, et plus particulièrement le département du Nord, est l'un des plus touchés par ce fléau. 3 femmes sont mortes en 2018, 6 en 2019. Et en plus, actuellement, on rencontre une augmentation constante des signalements en ces temps de confinement. Il devient donc plus que jamais vital d'agir. Mais face à ce nouveau confinement que nous vivons tous, il paraît impossible de se rassembler afin de manifester. La ville de Lille a donc dû redoubler d'ingéniosité afin de continuer à porter haut cette problématique. Et donc, depuis lundi, il est possible de voir de nombreux bâtiments s'illuminer en violet, couleur emblématique de la lutte contre les violences faites aux femmes. Si vous êtes donc sur Lille et que vous avez la possibilité de sortir à la nuit tombée, vous pourrez voir s'illuminer des bâtiments emblématiques de la ville tels que le Palais des Beaux-Arts ou encore la Porte de Roubaix. Et la ville de Lille et les acteurs associatifs du territoire ont également, depuis ce lundi, lancé une grande campagne de sensibilisation en ligne qui va durer du 16 novembre au 6 décembre. Ces 3 semaines d'action seront ponctuées de challenges, podcasts, projections, conférences en ligne et j'en passe. Le plus notable étant le challenge « Bougez-vous contre les violences faites aux femmes » co-organisé par la ville, l'association Osez le Féminisme 59 et le club d'athlétisme de Lille, le LMA. L'objectif est simple, 3 semaines pour courir de 5 à 10 km par jour dans la limite de l'heure de sortie autorisée, du rayon de 1 km autour de chez soi et muni de sa petite attestation, bien sûr, pour atteindre 39 190 000 km courus en référence au numéro d'écoute nationale Violence Femmes Info qui est le 3919. L'inscription se fait donc sur Internet auprès de la Ligue d'athlétisme Lille Métropole et il vous en coûtera 10 euros en espérant que ces derniers pourront permettre à la Fondation Nationale Solidarité Femmes, qui gère bénévolement depuis 92 la plateforme d'appel, de gagner l'offre de marché public qui s'apprête à être lancée par notre gouvernement, même si j'en doute fortement.
Et maintenant, une nouvelle pause musicale. Merci beaucoup, Léna. Et tout de suite, on va écouter, eh bien, une pépite locale. Et cette pépite locale, elle vient de moi, elle vient de Tours, du côté de Tours. Et on va écouter un groupe qui s'appelle Lacune Kerry, qui est donc un trio tourangeau Afroworld, qui a pour instrument la guitare électrique, les batteries percussions, ainsi que le saxophone. Il nous propose des musiques d'Afrique et d'outre-mer. C'est donc un voyage musical qui nous est proposé et sur un air un peu dansant. Ils ont sorti en septembre un album intitulé Kessa Outi. Donc vous avez compris le jeu de mots, incroyable, et ça sera prochainement dans l'émission quotidienne musicale de Radio Campus Tours. Et donc pour le moment, je vous propose un des titres qui s'appelle Soukous Star. Thank you.
Malgré la distance.
De retour dans votre émission Multicampus sur de nombreuses radios. Je vais vous donner la liste non exhaustive. Bah si, exhaustive du coup. On retrouve Radio Campus Lille, Radio Campus Angers, Radio Campus Orléans, Radio Campus Grenoble, Campus FM du côté de Toulouse, ainsi que Radio Pulsar du côté de Poitiers. Et évidemment Radio Campus Tours que je représente. Très heureux d'être dans cette émission avec tout ce beau monde. Et tout de suite, on arrive à une nouvelle séquence. Ça s'appelle le millefeuille. Qu'est-ce que le millefeuille? Eh bien, c'est un triptyque de reportage avec trois radios, mais aujourd'hui deux radios qui vont vous proposer trois reportage sur un sujet donné. Et ce sujet, aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est donner la parole sur les personnes et sur le sujet de la transidentité. Et donc pour cela, je passe la parole du côté d'Angers à Clémence.
Cette semaine, c'était la Trans Awareness Week, ou semaine de visibilité des transidentités. Dans une volonté de sensibiliser le public, j'ai discuté avec le Quasar à Angers. Avec Archibald, on vous donne quelques définitions et on revient sur les galères administratives rencontrées par les personnes transgenres. Bonne écoute à vous.
Aujourd'hui, on va donner la parole à celles qui n'ont pas assez. On accueille Archibald, membre du Quasar, l'association LGBTQIA+ d'Angers. Bienvenue à toi.
Bonjour.
Toi, tu es référent au pôle trans du Quasar. Vous accueillez les personnes agenres, transgenres et non-binaires. On va peut-être expliquer ces termes pour les personnes qui ne sont pas familières avec. N'hésite pas à me reprendre si jamais je me trompe. Donc, agenre, c'est une identité de genre pour laquelle une personne ne s'identifie à aucun genre du spectre. Archibald, je vais te laisser la place pour parler des transidentités.
Les personnes trans sont donc des personnes qui ont été assignées dans un genre particulier, homme ou femme, la plupart du temps. En grandissant, ne se reconnaissent pas dans ce genre qui leur a été assigné à la naissance. On parle donc de transgenre. Contrairement aux cisgenres à qui on a assigné un sexe à la naissance et qui, en grandissant, s'épanouissent dans ce sexe qu'on leur a attribué.
Et enfin, la non-binarité, c'est une identité de genre qui fait partie du spectre des transidentités. C'est quand on a un rapport au genre qui dépasse les représentations binaires, donc comme ça qu'on nous éduque, qu'on est soit un homme, soit une femme. Et là, c'est passer au-dessus de ces représentations. Il y a des façons très diverses d'être non-binaire. On peut par exemple se reconnaître dans les deux genres en même temps, d'être d'un troisième genre, ou encore d'un côté majoritaire du spectre. Vous fournissez aussi des conseils pour les démarches administratives. Alors aujourd'hui, l'administration française repose encore donc sur le système de représentation binaire. Quels documents sont nécessaires, par exemple, pour monter un dossier pour faire un changement d'état civil?
Pour le changement de prénom, c'est assez simple. Déjà, on ne passe pas au tribunal. Ça se passe à la mairie. Il faut des pièces assez simples, déjà prouver son identité, sa carte d'identité, ses cartes d'études, de rendre ses bulletins de paix, etc. Prouver son lieu de résidence, avoir son acte de naissance et des témoignages ou des preuves de l'utilisation de son identité souhaitée. Pour le sexe, c'est plus compliqué, mais c'est mieux qu'avant. Avant, on était obligé d'être stérilisé, d'avoir fait une réassignation sexuelle, c'est-à-dire d'avoir changé de partie génitale. Ça se passe toujours au tribunal, malheureusement. Cependant, l'avocat n'est plus obligatoire, c'est une procédure gratuite, on peut le faire de chez soi. Moi j'ai fait mon dossier tout seul et je suis allé à l'audience tout seul, ça s'est très bien passé. C'est assez court, c'est juste contraignant parce que ça demande un peu plus de preuves. Officiellement, il faudrait les mêmes preuves que pour le prénom, sauf que officieusement, en fonction des tribunaux, les jurés peuvent te questionner sur ta vie sexuelle, peuvent te questionner sur des détails de ta vie sentimentale ou professionnelle. Donc en fonction des tribunaux, la démarche peut être transphobe. Si vous êtes une personne trans et vous cherchez à faire cette démarche, il y a des classements, des tribunaux en France, des plus ouverts aux moins ouverts. On a des tribunaux comme Strasbourg et Nantes qui sont très mal cotés sur la question et dont il faut souvent charger son dossier pour être mieux pris en compte.
Pourquoi c'est important de faire ces démarches, sachant qu'elles sont vraiment très énergivores?
Tout simplement pour être reconnu. On s'en rend pas compte quand on ne le vit pas, mais le simple fait d'acheter une baguette ou de prendre un train, on est en permanence confronté à son identité, de par les appellations, comme tu dis, de politesse, bonjour madame, bonjour monsieur, mais aussi lors de contrôles dans les transports, dans le train, dans le tram, dans le bus. Et donc, c'est tout simplement pouvoir se présenter et se faire reconnaître, en fait, et se faire identifier comme on le souhaiterait.
Bonjour Ralph Souchet, vous êtes...
Et oui, j'ai eu la chance d'interviewer moi aussi Ralph Souchet, le président du groupe Action Gay Lesbien du Loiret. Donc vous n'allez entendre qu'un court extrait, mais l'interview est disponible dans son intégralité sur le site du Bondy Blog Centre. On écoute ça tout de suite.
Bonjour Ralph Souchet, vous êtes président de l'association GAGL45, qui est un centre LGBT, vous allez mieux nous expliquer tout ça, situé à Orléans, donc GAGL pour Groupe Action Gay Lesbien. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'asso en quelques mots?
Bonjour, donc le GAGL 45, le Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, parce qu'on est vraiment sur le Loiret, parce qu'il y a beaucoup d'associations et de centres LGBT en France. Nous, on est basé sur Orléans, donc avec un rayonnement sur le Loiret. Et on est centre LGBT plus d'Orléans, donc LGBT pour lesbienne, gay, bisexuel, transgenre. Et nous avons ajouté un plus à cette dénomination-là, parce qu'il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas dans ces termes-là. Et nous, dans le plus, on voulait surtout mettre en avant les personnes qui ont des droits dans cette société, on parle des personnes hétérosexuelles, et qui se battent tous les jours à nos côtés, pour avoir une société qui soit plus juste, une société plus égalitaire. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté un plus et on les remercie beaucoup. Nous avons créé un projet d'évolution de l'association avec un projet de santé, parce que nous avons l'agrément de l'Agence régionale de santé pour faire des TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique sur le VIH. Où au bout de quelques minutes, vous connaissez votre sérologie VIH il y a 2 mois.
D'accord.
Ce qui est un gros progrès. Un des axes de l'association est aussi la lutte et la prévention contre les discriminations, où nous faisons des interventions en milieu scolaire. Nous avons l'agrément du rectorat. Nous faisons aussi des forums. Nous travaillons avec les infirmières en milieu scolaire aussi sur le Loiret. Un axe qu'on a entre autres, c'est la convivialité, qui est très important. Et on est là pour permettre à ces gens de se sentir bien, à l'aise, pour éviter qu'ils continuent à être dans un mal-être et dans une perte d'estime de soi. Un autre axe qu'on a, donc je parlais tout à l'heure de la commémoration, la déportation homosexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le dernier axe de l'association, c'est les demandeurs d'asile. Parce que si nous, en France, on a encore cette chance-là de pouvoir vivre libre, malheureusement, on a des droits. Malheureusement, dans d'autres pays, ils n'ont pas cette chance-là.
Le 10 octobre dernier, à Nantes, une manifestation contre la PMA et la GPA sans père a eu lieu, et donc je vous emmène à la contre-manifestation qui se déroulait en parallèle. On est le samedi 10 octobre 2020 et aujourd'hui c'est la mobilisation nationale contre le projet de loi bioéthique, c'est-à-dire la PMA, procréation médicalement assistée, sans père, et la GPA, gestation pour autrui. Le collectif Marchons Enfants a donc appelé à manifester à Nantes avec le soutien de la Manif pour tous, de l'Alliance Vita et des associations catholiques familiales. En réponse à cela, 8 collectifs nantais, à savoir Sapho Gang, Féministes Révolutionnaires, Nantaises en Lutte, Brigade de Solidarité Populaire, Action antifasciste Nantes, Collage féministe Nantes, Nantes révoltée et Collectif d'action féministe Nantes ont organisé une contre-manifestation, une riposte contre la manif pour tous. Nous sommes donc dans le train en direction du rassemblement qui a lieu à 14h place Bouffée à Nantes. Début de la manifestation, texte d'appel du collectif Sapho Gang. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés contre celles soutenues par les extrêmes, luttant depuis toujours contre le mariage pour tous. Contre le projet de loi bioéthique, intimement violent, misogyne, sérophobe, sexiste, homophobe, classiste, servant les intérêts de celles qui nous exècrent et de celles qui nous tuent. Contre le vieux monde, celui qui nous crache encore une fois tout son venin à la figure. En face de nous aujourd'hui, sa carcasse dégarnie, les derniers soubresauts de son dédain et de sa haine. Et nous nous dressons face à lui avec toute notre colère, sourde, toute notre révolte et notre hargne, toute notre volonté, plus forte que tout. Le vieux monde veut notre mort. Chaque jour, nous sommes assassinés, violés, agressés. Chaque jour, notre rage redouble. Que crier à cette société à part ? Nous mourons et c'est de votre faute. Finalement, les deux manifestations auront rassemblé chacune environ 1 millier de manifestants manifestantes. Les deux cortèges ne se seront pas croisés, avec d'un côté une manifestation protégée par la police et de l'autre des gaz lacrymogènes lancés sur les militants militantes dans les rues du centre-ville. Le cortège de la Manif pour tous et de Marchons Enfants se sont rendus au mémorial de l'esclavage et devant le tribunal. Pendant ce temps, la riposte prenait la gare de Nantes et hurlait sa détermination, qui elles n'auront pas.
Margot, fille de vagues ou de ruisseaux, et c'est mon cœur.
Je crois qu'il y a un petit souci. Sarah a eu un petit souci de souris, donc ne pouvait pas parler. Donc, du coup, on donne la parole à Myriam pour présenter l'artiste engagé. Pardon.
Merci, Alizéa. Nous souhaitions clore cette rubrique avec l'œuvre d'une personne transgenre. Notre choix s'est porté sur Jacqueline Charlotte Dufresnoy, mieux connue sous le nom de Coccinelle. Combat pour la visibilité et le droit des personnes transgenres a marqué sa vie. Elle impose son identité dès ses débuts au Carrousel, un cabaret parisien. Elle devient la première personne transgenre médiatisée en France. En 1959, défendue par Robert Badinter, elle obtient la modification de son état civil. Dans les années 70, elle devient une star internationale grâce au spectacle « Chercher la femme », joué en Amérique latine, au Canada et en Australie. Ce rôle d'emblème continue même après son décès en 2006. En effet, elle est depuis 2017 la première personne transgenre à avoir donné son nom à une rue en Europe. La promenade Coccinelle se trouve à Pigalle, non loin de la salle où elle a fait ses débuts. Ce jour du souvenir transgenre, sa voix résonne sur les ondes de Radio Campus avec le titre « Chercher la femme ».
me voyant, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Cherchez, cherchez la femme. Voyez, je ne cache rien, cherchez bien. En moi, tout le proclame. Que le mot féminin vraiment me convient. Je n'ai qu'un seul programme. Ce soir, c'est de tout faire pour vous plaire. Cherchez, cherchez la femme. Vous verrez que je n'ai pas clair d'en avoir l'air. Quand un cycliste perd les pédales,
forcément ça fait un scandale.
Quand un jockey n'est plus dans la course,
on se dit t'es mort de ressources.
Quand un coiffeur boucle ses valises,
on doit faire sa centralise.
Quand un pompier a le feu quelque part,
on s'étonne d'un événement aussi bizarre.
Cherchez, cherchez la femme. Son charme est dangereux, oui messieurs, partout, dans tous les drames. Toujours c'est une femme qui mène le jeu, elle a tout un programme. De trucs qui rendent fous, méfiez-vous. Cherchez, cherchez la femme. C'est elle uniquement la cause de tout.
Cherchez la femme.
C'est pas mal comme programme.
C'est là notre souci, Dieu merci.
Et notre joie aussi.
On perd des kilogrammes.
Ce n'est pas un drame. Et même ceux qui nous blâment, un jour change d'avis, c'est la vie. Cherchez, cherchez la femme. Et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, vous en serez ravis.
Multicampus.
Tous ensemble, malgré la distance.
Et voilà, c'était donc Chercher la femme, un titre qui est proposé donc par Myriam de Grenoble. Et tout de suite, c'est le débat du jour, et je crois que c'est Lille qui doit le mener. Donc Lille, si vous êtes là, parce que vous êtes plusieurs, si vous êtes là, répondez-nous, et c'est à vous.
Oui, bonjour. Du coup, aujourd'hui, dans Déo et Débat, nous allons parler de la santé psychologique des étudiants dans un contexte de pandémie. Nicolas Franck, psychiatre français, dans une interview diffusée sur France Info, nous dit que de par leurs conditions de confinement, la distance avec leurs parents, l'interruption de leur rythme d'études, leur précarité et les difficultés à se projeter dans l'avenir, les étudiants sont les premiers à souffrir psychologiquement du confinement. Est-ce que donc, d'après vous, les étudiants sont psychologiquement les premières victimes du confinement ?
Bah, honnêtement, oui, probablement. Je sais qu'Emmanuel Macron, il a dit, a quand même dit, c'est pas facile d'être jeune dans cette période, et il a raison, c'est pas facile. Donc il y a effectivement une souffrance particulière. Puis il y a aussi une difficulté hein, d'être éloigné. Forcément, c'est le cas pour tous, mais dans une période de vie où on aime beaucoup sortir, on aime beaucoup voir ses amis, etc. C'est assez difficile cette période de confinement. Donc moi, je répondrai assez positivement à ta question. Ouais, tout à fait. Et il me semble que du côté de Grenoble, Myriam veut aussi prendre la parole.
Oui, effectivement. Donc moi, je dirais même que c'est officiel. La jeunesse est la génération qui souffre le plus du confinement et la plus pénalisée par le Covid. En tout cas, c'est ce qu'a démontré un sondage publié hier soir et effectué par l'agence Odoxa Dentsu Consulting, France Info et Le Figaro. Sur les 686 jeunes, c'est-à-dire personnes qui ont entre 15 et 30 ans interrogées pour le sondage, 57% estiment que le confinement est difficile à vivre, contre 46% pour le reste des Français. que Françoise Hardy décrivait comme le temps de l'amour, des copains et de l'aventure, est quelque peu terni quand 45% des jeunes ont un stage ou une formation annulée et 24% ont vécu une rupture amoureuse ou une détérioration de leur vie de couple liée à la situation et à la pandémie. Difficultés se sont incarnées en début de semaine sur le fil de Florian, le fil d'actualité Facebook. Donc Florian est un jeune qui depuis mardi partage articles de journaux et reportages de télé locale sur le combat qu'il mène avec sa promo. Florian est étudiant en école d'infirmier et l'agence régionale de santé leur a annoncé par le voix de l'administration de leur école mardi qu'ils n'auraient plus cours, ni à distance, ni en présentiel, pour qu'ils puissent servir de renfort comme aide-soignant. Décision va stopper 1500 étudiants dans leur parcours, alors que seulement 8 ont été réquisitionnés depuis le début de la pandémie. Il expliquait qu'il était inquiet après l'annulation du tiers de ses stages l'an dernier et qu'il a le sentiment d'avoir cumulé des lacunes qui vont encore se creuser. Ces lacunes qui sont pour lui la source de perte de confiance, il a l'impression aussi de ne pas savoir faire ce qu'il est censé savoir faire à ce stade de sa formation. J'ai trouvé le même sentiment chez Mohamed, un étudiant de 20 ans qui devait passer sa troisième année de licence en Corée, à Séoul. Son rêve a été annulé, il doit retourner se confiner dans sa lampe et il passe la fin de sa licence dans 18 mètres carrés. Il souffre d'isolement, tous ses cours sont en vidéo et il trouve à présent compliqué de se tourner vers l'avenir et de faire des projets. Toutefois, philosophe, il m'a expliqué qu'il pensait que cette situation l'avait poussé à aller chercher en lui des stratégies pour contourner les difficultés. Ces témoignages, moi, ce que je retiens, c'est la résilience et l'engagement dont aura besoin cette génération pour contourner un cratère d'astéroïdes sur le chemin vers l'avenir. L'impact d'un projectile tombé des cieux auquel ils vont devoir faire face, et ils vont devoir trouver un itinéraire bis vers l'avenir.
Et d'après toi, Emma?
Alors moi je voulais, donc effectivement je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Mariam. Moi je voulais revenir sur un article que j'ai lu la semaine dernière dans Le Monde et qui conforte un petit peu tout ça et du point de vue des étudiants en fait, parce que c'est un article qui parlait de la plateforme Nightline, qui est en fait un service d'écoute nocturne qui est gratuit et qui est géré pour les étudiants, mais par les étudiants surtout. Donc c'est des étudiants qui s'occupent de répondre aux appels et aux demandes. Et ce qui est hyper frappant et parlant, c'est que la plateforme, elle existe depuis 2017, donc elle était active bien avant le confinement. Et ce qui est expliqué par les étudiants qui gèrent cette plateforme d'écoute, c'est que le nombre d'appels et de demandes, il a vraiment explosé avec le premier confinement. Et donc ça montre vraiment finalement que, bon après on n'en doutait pas vraiment, mais que ce confinement a vraiment un impact énorme sur la santé mentale des étudiants. Puisque voilà, on l'a dit, ils sont mis à rude épreuve avec le basculement des cours en distanciel, l'annulation des stages aussi, ou même des petits boulots. Donc tout ça, ça amène la solitude et puis ça amplifie la précarité étudiante. Et donc voilà, cette plateforme, elle en témoigne vraiment.
Merci beaucoup. Et chez vous à Orléans ?
Alors à Orléans, effectivement, le confinement étudiant est compliqué et différentes aides ont été mises en place. Et c'est le Bondy Block Centre qui nous fait un point sur l'ensemble des aides de la région Centre-Val de Loire. Donc université fermée, précarisation de l'emploi étudiant, isolement, difficulté d'accès aux loisirs. Les étudiants sont nombreux à souffrir des conséquences du confinement. François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, l'a rappelé ce lundi matin lors de sa conférence presse donnée en Vision Conférence. Ce rendez-vous avec les médias avait pour objectif d'exposer les différentes mesures mises en place par la région pour soutenir les étudiants pendant le confinement. Ces dispositifs concernant les domaines du social, de la mobilité, de l'emploi, de la culture et de la santé psychologique. Et donc, pour parler de ces aides qui sont abordées, il y a d'abord l'Académie Orléans Tours qui a mis en place un service d'aide aux étudiants en détresse psychologique. Et c'est le site www.soutien-étudiant.info sur lequel vous pouvez aller demander de l'aide. Vous pouvez également consulter le site de stopblues.fr sur lequel vous pouvez trouver des capsules vidéo qui décrivent les émotions que l'on peut ressentir face à la peur de la maladie, aux difficultés du confinement, à l'isolement social ou aux conflits familiaux. Des solutions concrètes et accessibles sont proposées pour protéger en tout cas des conséquences de cette situation sur la santé mentale en tout cas des étudiants. Et donc il y a ce site web Stop Blues. Mais le Crous Orléans Tours a également mis en service un service service APSI Hours, qui est un service financé par le CVEC. Et donc, si vous n'avez pas le moral, si vous avez des questions ou des angoisses, des problèmes familiaux, des sentiments, un sentiment de solitude, du stress, des difficultés pour les études, ou juste envie d'avoir l'aide d'un psychologue, d'un ou d'une psychologue, vous avez justement une aide avec ou sans rendez-vous le mardi de 18h à 21h pour une écoute bienveillante et sans jugement, avec un soutien, des réponses, et ceci en toute confidentialité. Et justement, en raison du confinement, ils ont mis en place un service de visioconsultation jusqu'à nouvel ordre. Et donc vous pouvez aller vous renseigner sur le site du CROUS, APSI Hours. Et donc vous pouvez aussi appeler le numéro 06 27 86 91 83. Voilà, en tout cas du côté d'Orléans.
Et une dernière personne, Simon, ça se passe comment à Toulouse?
Alors, je vais pas vous parler de Toulouse, je vais vous parler de Bordeaux, la ville sœur et un peu concurrente quand même de Toulouse, avec une étude qui est déjà en cours depuis plusieurs années, une étude qui s'appelle iShare, qui est coordonnée par l'INSERM de l'Université de Bordeaux, justement sur la santé mentale des étudiants, et qui a mené une cohorte en ce moment un peu particulière sur les étudiants en confinement. Elle est coordonnée par Christophe Thuriot, qui est un épidémiologiste, et il constate que statistiquement, les étudiants sont beaucoup plus touchés par la dépression pendant le confinement. Et alors, selon pour s'étendre les premiers résultats de cette enquête-là, suivant les symptômes dépressifs, il y a 27% des étudiants interrogés qui présentent des syndromes dépressifs, contre 16% pour toutes les autres catégories d'âge. Et pour l'anhédonie, qui est le fait de dépourvu d'envie et d'énergie, donc d'être complètement déprimé, de ne plus rien réussir à faire, c'est 40% des étudiants enquêtés, contre seulement 25% des personnes d'autres tranches d'âge. Alors l'enquête va continuer pour avoir des résultats encore plus fiables et pouvoir être publiée. En tout cas, on voit déjà que les jeunes et les étudiants sont parmi les plus concernés par les syndromes de dépression pendant ce confinement. J'enchaîne du coup pour Emma, tu veux conclure le débat d'abord?
Oui, on peut conclure le débat que Nicolas Franck avait bien raison, je pense, sur le fait que les étudiants sont bel et bien les premières victimes psychologiquement du confinement. Et maintenant, Simon, je te laisse nous présenter la pause musicale qui va suivre.
Ouais. Cette semaine, dans Multicampus, un son Radio Muse Independent Radio Exchange, une sélection musicale orchestrée par une vingtaine de radios associatives dans toute l'Europe. Sélectionné par Radio Student Ljubljana, on écoute Sick Disco, un titre du big band jazz slovène Styrofoam.
Radio Muse. Featured song.
The modular big band Matrix Orchestra Styrofoam on the beautifully cheeky track Sick Disco.
Product. Money. Power. Beauty and the fame.
of sins will fade away.
Radio Muse, supported by EU.
Multicampus.
Tous ensemble, malgré la distance.
Pour la séquence internationale de ce multicampus, Léo et moi vous proposons un décryptage autour d'une actualité dont on n'a pas fini d'entendre parler. C'est l'adoption du budget européen. Mais de quoi parle-t-on exactement, Léo ?
Le budget européen est constitué de plusieurs enveloppes. C'est surtout les 27 États membres qui contribuent à hauteur de leur poids économique. Pour extrapoler, l'Allemagne, première puissance économique de l'Union, contribue plus au budget que la Lettonie, par exemple. Ce budget est pluriannuel, il est prévu pour la période 2021-2027, mais chaque année, des négociations ont lieu pour déterminer le budget annuel. Il ne prévoit pas de déficit, ce qui peut s'avérer problématique en cas d'imprévu du type pandémie de Covid-19. Il permet de financer les politiques menées par l'Union dans tous les domaines, recherche, transport, culture, éducation, et surtout l'agriculture et le fonds de cohésion, auxquels près de 70% du budget sont alloués. Pour 2021-2027, le budget européen représente environ 1100 milliards d'euros en hausse par rapport au budget précédent. Et cette année, il a de particulier qu'il est également composé du plan de relance de l'économie européenne durement affectée par la pandémie. En effet, en juillet et après plusieurs jours et nuits consécutives de négociations, les chefs d'État et de gouvernement des 27, rassemblés lors du Conseil européen, se sont accordés pour un plan de relance de 750 milliards d'euros. Le budget en cours de négociation, donc cadre financier pluriannuel plus plan de relance, est ensuite arrivé entre les mains du Parlement européen qui a le droit de le retravailler. Et tout a basculé début novembre lorsque le Parlement est parvenu à autoriser la Commission européenne, qui était à l'initiative de ce plan, de suspendre le versement de ces fonds en cas de violation de l'état de droit par un État membre. Une condition qui n'a pas plu à certains États, et Simon va vous expliquer pourquoi.
La Hongrie, dirigée depuis 2010 par le national conservateur et eurosceptique Viktor Orban, et la Pologne de Mateusz Morawiecki, entrées toutes les deux dans l'Union européenne en 2004, sont accusées de ne pas respecter le principe d'état de droit, c'est-à-dire de garantir un état au sein duquel les institutions publiques sont soumises aux droits, aux lois, ainsi qu'aux principes fondamentaux que sont les droits humains et les libertés fondamentales. Or, le respect de ce principe d'état de droit est garanti par l'article 2 du traité sur l'Union européenne, le fameux traité de Maastricht. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, dit cet article, de liberté, de démocratie, et de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Alors pourquoi la Pologne et la Hongrie sont pointées du doigt maintenant ? En Pologne, ce sont les réformes engagées par le Parti conservateur droit et justice, le PIS, actuellement au pouvoir, qui ont alerté Bruxelles. Plusieurs réformes judiciaires menaçaient en effet de ne plus garantir l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique. Et à ce titre, et conformément au traité sur l'Union européenne, l'Union a engagé l'article 7 qui prévoit des mesures préventives puis des sanctions en cas de violation des valeurs européennes. Cet article 7 pourra être enclenché à la majorité des 4/5 des États membres. En 2017, le Parlement européen a adopté une résolution, une première étape, avant d'enclencher ce même article 7, mais cette fois contre la Hongrie, constatant notamment une grave détérioration de l'état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux ces dernières années. En Hongrie, la tension est montée en ce début de mois, alors que les eurodéputés et les représentants des pays membres de l'Union ont adopté un accord conditionnant le versement des fonds structurels, dont les aides liées à la crise sanitaire, au respect de l'état de droit. Le 5 novembre, la ministre hongroise de la Justice, Jurit Varga, a dénoncé un chantage de la part de l'Union européenne. D'après Laszlo Arató, correspondant à Bruxelles du journal économique Eti Vila Kastasak, Orban a l'habitude de faire profiter ses amis des fonds européens et des postes d'importance dans le pays. De récentes mobilisations ont secoué la Hongrie contre l'exécutif. Et pour Reporters sans frontières, le gouvernement renforce sa mainmise sur les médias. L'accès à l'information est de plus en plus difficile pour les journalistes indépendants. Enfin, le rapport 2019 d'Amnesty International, lui aussi, est fortement à charge contre le gouvernement hongrois. Affaiblissement de l'indépendance de la justice, atteinte à la liberté d'expression, discrimination contre les minorités roms, contre les LGBTI et durcissement de la politique anti-migratoire, entre autres. Alors que pourrait-il arriver si l'étape 2 de l'article 7 était enclenchée? Les sanctions possibles sont d'abord le blocage de ces fonds structurels, donc dans l'Union européenne, et des fonds du plan de relance face à la crise sanitaire, et l'impossibilité de voter certaines décisions communes. Alors, pourquoi cela pose-t-il problème maintenant? D'abord parce que, comme je le disais tous les deux, il y a des dissensions en ce moment pour le vote du budget de l'Union européenne à un moment important où la cohésion entre la prise de décision commune est requise face à la crise sanitaire et à la crise économique qui en résulte. Et pour le vote du budget pluriannuel, c'est important d'avoir cette cohésion-là. Jusqu'à cette semaine, l'hypothèse d'un veto de la Hongrie et de la Pologne n'était pas prise au sérieux. Or, il semble que Viktor Orban soit déterminé à aller jusqu'au bout. Mais face aux menaces de sanctions, il pourrait plier pour permettre à son pays de bénéficier des fonds européens et notamment de s'en sortir pendant cette crise sanitaire, alors que son gouvernement est déjà accusé par l'opinion publique de ne pas avoir pris assez tôt la mesure de la gravité de la pandémie.
Depuis hier, la situation n'a pas changé, mais les discussions vont se poursuivre afin de remettre les 27 d'accord. En tout cas, plusieurs questions méritent d'être soulevées. D'abord, quelle sera la position défendue par le groupe de Visegrad? Le groupe de Visegrad, c'est une entente entre la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Les Tchèques et la Slovaquie n'ont pas rejeté le budget tel quel. Quelle position vont-ils défendre lors du Conseil qui se déroule en ce moment? Ensuite, faut-il réfléchir à une procédure d'exclusion d'un État? En effet, les traités prévoient la sortie volontaire, comme ça a été le cas pour le Royaume-Uni, mais rien en cas de violation systématique des traités. Par ailleurs, faut-il repenser la procédure d'unanimité au Conseil européen, au profit, par exemple, d'une majorité des 4/5 des États membres, avec l'existence d'une minorité de blocage? Enfin, les sanctions prévues par l'article 7 sont-elles trop souples ou trop lentes? Cela fait en effet plusieurs années que la Pologne est surveillée par l'Union, mais rien ne semble indiquer l'application de sanctions à moyen, voire à court terme. Après ce passage au Parlement européen, le texte du budget est donc de retour au Conseil, qui s'est ouvert hier en visioconférence. Mais entre-temps, avant le Conseil, non seulement Viktor Orban et son homologue polonais Morawiecki ont annoncé mettre un veto sur le budget tant qu'il était lié au respect de l'état de droit, mais en plus, la Slovénie est entrée dans la danse en annonçant soutenir la Hongrie et la Pologne. Tous trois se rejoignent sur un point, la question du respect de l'état de droit doit relever d'une justice indépendante et non pas d'une majorité politique. Une situation assez incompréhensible de notre point de vue, dans le sens où le respect des valeurs de l'Union est inscrit dans les traités et qu'un État ne peut pas entrer dans l'Union s'il ne remplit pas une série de critères, parmi lesquels justement le respect de l'état de droit. Beaucoup de questions donc autour de l'adoption de ce budget, tant sur l'attitude de la Hongrie que sur des questions structurelles de fonctionnement des institutions. Il est clair que les dirigeants devront revenir sur cet épisode et prendre des décisions importantes en conséquence. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage. Je repasse la parole à Mathis et à Lisea.
Merci à vous et c'est la fin de cette émission Multicampus. Je remercie toutes les radios, donc Julien de Tours, Emma de Lille, je rappelle les fréquences, Julien de Tours 99.5 FM, Emma de Lille 106.6 FM, Clémence, Léo et Sarah de Angers 103 FM, Myriam de Grenoble 90.8 FM, Simon de Campus FM, Toulouse 94 FM et Emma de Pulsar Poitiers 95.9 FM.
Et j'ajoute juste qu'il y a aussi Léna à Lille qui fait partie du qui était là aussi aujourd'hui.
Léna à Lille 106.6 FM.
Voilà.
Merci Ali et donc vous pouvez retrouver ce programme en tout cas en replay sur le site de Radio Campus Orléans et puis on va se quitter en musique, je crois que c'est ça. Donc on va se quitter sur un groupe, c'est Upsin, un groupe orléanais qui a déjà fait son bout de chemin très prometteur. Ils nous sortent un nouvel album le 27 novembre, No Plans Required, plein de fraîcheur summer pop aux influences disco. Ils décrivent leur album tantôt plage d'été, tantôt soirée, assureur de peau dans un club londonien. Objectif, faire bouger les têtes et le reste avec. Lunettes de soleil obligatoire, été 2021 dans le viseur. C'est Half Moon qu'on écoute tout de suite.
Shadows move.
Multicampus.
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 L'interville des radios campus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.